VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 21 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, discours du président Patrice Talon sur les récentes violences post-électorales dans son pays.
En République démocratique du Congo, l'ex-ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est le premier ministre du nouveau président Félix Tshisekedi.
Le Cameroun a célébré hier sa fête nationale dans la division.
En Côte d'Ivoire, lancement hier de Sublime Côte d'Ivoire, un ambitieux programme visant à développer le tourisme étranger.
Ici à Washington, les chefs militaires américains vont donner aujourd'hui un briefing à huis clos au Congrès sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé hier soir à ses concitoyens. Dans un message diffusé sur la télévision nationale, M. Talon est revenu sur les violences post-électorales. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Patrice Talon a invité les Béninois à tirer les leçons des manifestations post-électorales. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique, a-t-il déclaré. Il dit regretter les victimes des 2 jours de manifestations à Cotonou.
Cela est très regrettable. Davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense.
Patrice Talon est aussi revenu sur le système partisan qui, selon lui, reste une réforme délicate mais nécessaire. Il a invité les 83 nouveaux députés à se mettre résolument au service du Bénin tout entier pour le vote de lois utiles.
Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays.
Le chef de l'État a regretté l'assassinat de Fiacre Gedi, l'un des guides du PAC de la Pendjari, l'enlèvement des 2 touristes français avant d'appeler le peuple béninois à accompagner les réformes engagées pour révéler le Bénin aux yeux du monde pour amorcer le développement tant attendu. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a nommé hier l'ex-ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste de premier ministre, près de 4 mois après son investiture. Actuel directeur général de la Société nationale des chemins de fer, M. Ilunga Ilunkamba a été nommé en vertu de l'accord politique entre M. Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila. Nous reviendrons sur les réactions à cette nomination en seconde partie de cette édition.
Le Cameroun a célébré hier sa fête nationale dans la division avec des cérémonies boycottées par l'opposition et un appel des séparatistes armés à observer une journée ville morte dans les régions anglophones. Le chef de l'État, Paul Biya, dont les apparitions publiques sont rares, a présidé un défilé civil et militaire sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Reconduit lors d'une élection dont les résultats ont été contestés, M. Biya, 86 ans et au pouvoir depuis 1982, multiplie depuis plusieurs semaines, les appels à la tolérance et à l'unité.
En Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme a lancé hier, Sublime Côte d'Ivoire, un ambitieux programme d'un coût de 3200 milliards de francs CFA visant à développer le tourisme étranger. Précision d'Irénée Herman Umbo.
Notre ambition, c'est de devenir d'ici à 2025 la 5e destination touristique africaine et peser 12% du PIB, soit environ 300 milliards de francs CFA, a déclaré le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana. Il indique aussi que le projet permettra de créer 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Le ministre Fofana a notamment mis l'accent sur la ville de San Pedro, entourée de belles plages. Il estime que le 2e port du pays était stratégique pour le développement touristique en Côte d'Ivoire. Pour lui, ce qu'il y a à faire, c'est de construire et réhabiliter l'axe San Pedro-Abidjan par la côtière à partir de cette année 2019, agrandir l'aérogare de San Pedro, construire un chemin de fer pour y acheminer toute la production minière de la zone ouest. Sur les 3,200 milliards de dollars à mobiliser, 1,500 milliards seront concentrés à l'État ivoirien et le reste par des investisseurs privés. Plus de 480 milliards de francs CFA seront consacrés créé à la région de San Pedro pour la réalisation des infrastructures hôtelières, a précisé le ministre ivoirien.
Au Soudan, les négociations se sont achevées hier soir entre les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation, sans aboutir à un accord sur la composition du futur conseil souverain censé assurer la transition. Le principal point de discorde entre l'ALC et le conseil militaire reste le taux de représentation et la présidence du conseil souverain entre civils et militaires, ont déclaré les deux parties dans un communiqué commun à l'issue de la réunion.
Élection présidentielle aujourd'hui au Malawi où le président sortant, Peter Mutharika, brigue un second mandat face à deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Monsieur Mutharika, 78 ans, s'était engagé à lutter contre ce fléau à son arrivée au pouvoir. Il s'est lui-même retrouvé impliqué dans un scandale de pot de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les chefs du Pentagone et de l'état-major américain informeront aujourd'hui à huis clos tous les parlementaires du Congrès américain sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran, a confirmé à l'AFP un responsable américain sous couvert d'anonymat. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devrait aussi s'adresser aux plus de 500 élus conviés lors de la même réunion, d'après des médias américains. Les relations entre Washington et Téhéran connaissent un nouvel accès de fièvre après le renforcement début mai de la présence militaire américaine au Moyen-Orient pour faire face, a-t-on dit, à des menaces iraniennes.
Un juge fédéral a donné raison aux parlementaires démocrates qui exigent des documents sur les finances du président Donald Trump avant son arrivée à la Maison-Blanche. C'est la première fois que la justice américaine s'immisce dans ce conflit entre le président et l'opposition démocrate qui, forte de sa nouvelle majorité à la Chambre des représentants, a ouvert plusieurs enquêtes à son sujet. Se disant victime d'un harcèlement, Donald Trump refuse de coopérer à ses investigations qui portent sur ses impôts, ses finances ou encore les suites à donner à l'enquête russe.
Par ailleurs, la Maison-Blanche a ordonné à son ancien conseiller juridique, Don McGahn, de ne pas répondre à une convocation du Congrès. Selon un avis légal du ministère de la Justice, les conseillers présidentiels ne sont pas tenus de témoigner devant le Congrès en raison de la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Pour le démocrate Jerry Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre, c'est le dernier exemple en date du dédain de l'administration Trump pour le droit. La commission, a ajouté M. Nadler, maintient sa convocation et attend aujourd'hui M. McGahn. Les démocrates veulent en savoir plus sur des propos tenus devant le procureur spécial Robert Mueller, qui enquêtait sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
En Indonésie, le président sortant, Joko Widodo, a été élu pour un second mandat après avoir battu l'ex-général Prabowo Subianto, a annoncé la commission électorale très tôt ce matin. Joko Widodo a obtenu 55,5% des voix contre 44,50% pour son adversaire.
Les enquêteurs de l'ONU travaillant sur des exactions imputées au groupe État islamique contre les Yazidis ont exhumé 12 charniers en Irak. Ils disent réunir des témoignages pouvant être utilisés devant la justice. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans le rapport, le chef de la commission d'enquête onusienne, Karim Assad Ahmad Khan, indique que les investigations de ces 48 enquêteurs sont focalisées sur un massacre de Yazidis en 2014. À cela s'ajoutent des crimes à Mossoul entre 2014 et 2016 et la mort du recrue militaire irakienne dans la région de Tikrit en juin 2014. Un premier charnier avait été exhumé par la commission à la mi-mars à Kodjo, localité yazidi du nord de l'Irak. Les avancées sont plus lentes que prévues, note Karim Assad Ahmad Khan dans le rapport remis au Conseil de sécurité. Il souligne la nécessité d'établir des procédures claires et efficaces pour utiliser les preuves lors de poursuites judiciaires, ajoutant qu'un programme de protection des témoins a été mis en place. Le Conseil de sécurité a créé en 2017 une équipe d'enquêteurs pour s'assurer que le groupe État islamique réponde d'éventuels crimes de guerre en Irak et en Syrie. Ce dossier est également porté par le prix Nobel de la paix yazidi Nadia Mourad et l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Selon l'ONU, le massacre des yazidis, une minorité kurdophone, pourrait constituer un génocide. Le groupe État islamique, vaincu en Irak fin 2017, a laissé derrière lui plus de 200 charniers qui pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps, selon l'ONU.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque africaine de développement a investi 199 780 milliards de francs CFA au Togo. Selon le magazine Togo First, ces fonds ont été investis dans 12 projets encore inachevés et portant sur la transformation agroalimentaire, la réhabilitation des routes, la préservation des côtes et la réforme économique. La BAD veut aussi soutenir le plan visant un taux d'électrification de 40% au profit de 300 000 ménages togolais d'ici 2022. Elle déplore toutefois le non-respect des délais d'exécution des projets et le défaut de justifier à temps l'utilisation des fonds. La Somalie a adopté ce lundi une loi sur le secteur pétrolier ouvrant la voie à une exploration dans ses eaux. Son économie en difficulté pourrait potentiellement s'améliorer si des richesses en hydrocarbures étaient découvertes. La nouvelle législation permet la création d'institutions chargées de superviser le secteur et la gestion des revenus. Pour terminer, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis estiment qu'il n'y a pas matière à augmenter la production de pétrole en dépit de la chute enregistrée en Iran et au Venezuela. Le ministre de l'énergie saoudien Khaled Al-Faleh se dit même inquiet d'une hausse des stocks mondiaux. Il appelle à la prudence afin d'éviter la chute des prix de l'or noir comme ce fut le cas en 2018. Les Émirats Arabes Unis de leur côté appellent à maintenir le niveau de production décidé par l'OPEP l'an dernier, soit 1,2 million de barils par jour.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Oroya, encore sacré champion en Guinée.
Oui, le club de Matam a décroché un cinquième titre consécutif dimanche après son succès 2-0 devant Wakuya AC avec des buts de Daouda Camara et Dramani Kiema. À 4 journées de la fin du championnat, Oroya compte 50 points et ne peut plus être rejoint par son dauphin au classement. C'est le 17e titre de l'histoire du club qui représentera une nouvelle fois la Guinée en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.
Asamoah Gyan prend sa retraite internationale.
Oui, l'attaquant a annoncé dans un communiqué de presse qu'il renonce à la sélection nationale du Ghana. Le joueur de Kayseri Sport évoque plusieurs raisons, dont celui du capitana. D'après de nombreuses publications au Ghana, Kwesi Appiah, le sélectionneur des Black Stars s'apprêtait à retirer le capitana à Gyan au profit d'André Ayou en Égypte. Je suis dans cette équipe depuis 2003 et j'ai joué avec certains membres de l'encadrement qui sont mes aînés. Durant toute cette période, jamais je n'ai entendu qu'on pouvait retirer le brassard au capitaine pour un autre alors que ce dernier faisait partie de l'équipe. Si la décision du coach est de confier le brassard à un autre joueur, alors que je fais toujours partie de l'équipe, alors je me retire personnellement, a écrit Gyan, recordman de but avec les Black Stars. Asamoah Gyan est aussi le seul joueur ghanéen à avoir inscrit au moins un but lors de ses 6 participations à la CAN et reste le meilleur joueur africain en Coupe du Monde.
Le Paris SG assure que Kylian Mbappé ne quittera pas le club.
Oui, le club parisien a affirmé que sa star poursuivra la saison prochaine au PSG en réaction aux propos de Kylian Mbappé qui a laissé entendre dimanche qu'il pouvait partir cet été. Le jeune prodige de 20 ans avait laissé planer un doute sur son avenir. C'est un moment important pour moi, un tournant dans ma carrière, le moment d'avoir plus de responsabilités, peut-être au PSG, peut-être ailleurs, a-t-il déclaré lors de la cérémonie des trophées UNPF au moment de recevoir son titre de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison.
Toni Kroos prolonge au Real Madrid.
Oui, le milieu de terrain allemand du Real Madrid a été prolongé jusqu'en 2023. Le contrat de Toni Kroos, 29 ans, arrivait à échéance en 2022. Champion du monde 2014 avec l'équipe d'Allemagne, le milieu international avait rejoint dans la foulée le Real en provenance du Bayern Munich pour 25 millions d'euros. NBA, pour finir, Idrissa, la nuit dernière, s'est joué le match numéro 4 en finale de la conférence Ouest entre Golden State et Portland.
Le double champion en titre, Golden State, s'est qualifié pour sa 5e finale NBA consécutive en s'imposant 119-117 après prolongation à Portland. Les Warriors ont remporté la finale de la conférence Ouest, 4-0. Face aux Trail Blazers. Ils sont seulement la 2e franchise dans l'histoire de la NBA à disputer 5 finales de suite, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 53 ans. Golden State affrontera en finale pour le titre à partir du 30 mai les Milwaukee Bucks ou les Toronto Raptors opposés en finale de la conférence Est.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, près de 4 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a procédé hier à la nomination de son premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba était jusqu'à sa nomination directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Comment en sont-ils arrivés à cette décision? Pour en savoir plus, Raissa Girondin a joint le porte-parole présidentiel Kasongo Muema Yamba Yamba.
Cette nomination du nouveau Premier ministre, qui est attendue depuis plusieurs mois, et c'est fait donc là maintenant, il reste juste à voir les tractations qu'ils vont mener pour qu'on mette en place le gouvernement.
Comment le choix s'est porté sur Sylvestre Ilunga Ilunkamba?
La décision ne vient pas totalement du président de la République, parce que c'est une coalition qui s'est mise en place pour gérer le pays, le Front commun pour le Congo, FCC, et le CASH, le Cap pour le changement, qui réunit l'UNC de M. Vital Kamerhe et l'UDPS de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir travailler ensemble. Mais il y a plus de députés qui appartiennent au FCC. Donc, c'est le FCC qui a proposé des noms au président Tshisekedi pour qu'il puisse en choisir un et le nommer comme Premier ministre. Il y a des conditions que le président avait posées au FCC. Je crois que vous avez appris qu'il y avait des noms qui avaient déjà été proposés au chef de l'État et que, fermement, il a dit « Je suis désolé, ça, je ne prends pas ». Et donc là, quand on a proposé le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, c'est vrai que c'est un membre du PPRD, c'est pas un cacique, hein, mais c'est quelqu'un qui est modéré, qui est dans le consensuel, qui a une grosse expérience en matière de gestion de la chose publique. Il a été plusieurs fois, 4 fois je crois, vice-ministre. Il a été 2 fois ministre, et pas dans n'importe quel ministère. Il a été ministre du Plan, il a été ministre des Finances. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez discret, que l'on ne connaît pas beaucoup dans le microcosme politique congolais, mais c'est quelqu'un qui a véritablement fait ses preuves.
Le Premier ministre Ilunga a annoncé la formation rapide de son gouvernement et en même temps, Lubumbashi a accueilli en grande pompe l'opposant Moïse Katumbi qui est revenu avec un message d'apaisement et je cite, il s'est dit prêt à condamner ce qu'il faut condamner mais surtout à féliciter certaines actions du président Tshisekedi. Est-ce que vous voyez la possibilité d'un gouvernement inclusif?
À l'étape où en sont les choses et connaissant quand même le peuple congolais, il ne faut rien verrouiller. Et moi, je crois honnêtement, depuis que je fréquente le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais je dis simplement, puisque le même Moïse Katumbi Tshapwe a déclaré qu'il sera de l'opposition républicaine, donc il est à l'écoute. S'il y a des ouvertures qui permettent de faire quelque chose ensemble, bon, je pense que le président Félix Tshisekedi sera preneur. Mais pour l'instant, je crois qu'il va d'abord essayer de se mettre d'accord avec sa coalition pour trouver un gouvernement. Maintenant, bon, si plus tard il y a des experts, des gens comme ça qui mériteraient, de son point de vue, d'être associés à la gestion de la chose publique, je ne pense pas qu'il hésiterait une seconde.
C'était Kasongo Muema Yamba Yamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi, joint à Kinshasa par Raissa Girondin. Pour sa part, Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a recueilli les réactions de jeunes Kinois et de divers partis politiques. Si à la coalition Lamouka de Martin Fayoulou ont qualifié de non-événement la nomination de Sylvestre Ilunga au poste de Premier ministre, le Front commun pour le Congo dont est issu le nouveau chef du gouvernement se satisfait de son choix. À l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, on se montre plutôt prudent. On se montre prudent tandis que les jeunes Kinois attendent du nouveau Premier ministre des réponses aux besoins sociaux de base. Reportage de Thierry Kambundi.
À l'opposition, on n'attend pas grand-chose de la nomination de Sylvestre Ilunga comme Premier ministre. Selon Yves Kitumba, le porte-parole de la coalition Lamouka à Kinshasa, cette nomination qui est le fruit d'un arrangement entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s'inscrit dans la continuité de la même gestion du régime passé.
Au niveau de Lamouka, c'est un non-événement parce que c'est la continuité du régime FCC et avec sa mauvaise gestion, le mauvais choix des animateurs parce que rappelez-vous que M. Monsieur Ilunga n'a pas laissé une gestion éloquente au niveau de la SNCC. Également, Monsieur Ilunga a conduit cette réforme monstre des entreprises publiques. Nous notons également la mauvaise foi de l'autorité morale du FCC qui veut pérenniser la souffrance du peuple congolais.
Ce point de vue n'est pas partagé par Pius Mwabilou, député national élu de Kinshasa, cadre du Front commun pour le Congo.
Réaction de grande satisfaction, parce qu'il fallait finalement que nous ayons enfin un premier ministre. Il est là. C'est un très bon technocrate, un homme expérimenté. Bon, maintenant, il faudrait qu'on le voie à l'œuvre. Je ne doute pas un seul instant qu'il va faire du bon travail. Et il faudrait maintenant que ça soit avec l'appui de toutes les parties.
À l'UDPS, on se montre prudent. Augustin Kabuya, le nouveau secrétaire général du parti de Félix Tshisekedi, attend voir le nouveau premier ministre à l'œuvre.
Il n'a pas encore commencé le travail, il n'a pas encore présenté son gouvernement et son gouvernement n'a même pas encore été accepté au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est de lui souhaiter une bonne chance. C'est quelqu'un qui a un CV costaud, c'est un professeur de l'université, mais tout dépend aussi de la volonté politique qui l'anime.
À la société civile, on recommande au nouveau premier ministre de s'engager à lutter de manière efficace contre la corruption. Maître Georges Kapiamba est de l'ONG ACAJ, Association congolaise d'accès à la justice.
Nous saluons la nomination du nouveau premier ministre et nous lui recommandons vivement à ce qu'il puisse s'engager de manière claire et publique, à l'instar du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics.
Et dans les rues de Kinshasa, les jeunes qui ne connaissent que très peu le nouveau premier ministre attendent toutefois de lui des solutions aux vrais problèmes que rencontre la société congolaise en général et la jeunesse en particulier.
Ce que moi j'attends de lui, social d'abord, et qu'il pense aussi aux fonctionnaires, parce que ex-premier ministre, il a rien fait. Maintenant, moi je lui demande de penser aussi, nous aussi, les étudiants.
Bien qu'il n'est pas connu comme tel, mais notre souci à nous, c'est de venir répondre aux attentes de la population.
Le premier ministre, Monsieur Ilunga, particulièrement, je lui donne la chance de bâtir encore un Congo nouveau.
J'attends beaucoup de lui, parce que je suis jeune entrepreneur.
Ce que nous pourrions demander à ces derniers, c'est de pouvoir mieux gérer entre les régimes passés et les régimes présents.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Pour rester en RDC, nouveau cas de personnes infectées par la maladie à Ebola à Beni dans l'est du pays. Le cap des 1200 morts a déjà été dépassé depuis août dernier. Dans le même temps, la résistance semble regagner de l'ampleur. Eddie Isango a joint le maire de la ville de Beni, Bwana Kawa Nyoni.
Qui a eu recrudescence des cas d'Ebola? C'est parce que au niveau de Butembo, nous avons connu des cas malencontreux, de même qu'au niveau du territoire de Mambasa, en territoire de Ituri. Alors, depuis le mois d'avril, nous avons commencé à recevoir des cas pas originaires de Beni, mais en provenance de Butembo et de Ituri. Et il n'est que normal, c'est que quand ils arrivent à Beni, ils fassent certains contacts. Et ce sont certains de ces contacts aujourd'hui qui sont en train d'être enregistrés comme des nouveaux cas de maladie à virus Ebola au niveau de la ville de Beni. Nous-mêmes, nous déplorons le fait que la semaine antérieure, nous avions connu 8 cas, mais la semaine passée, nous sommes passés de 8 à 16 cas. Soit du simple au double. Et la sensibilisation continue pour que au courant de cette semaine, nous puissions voir les statistiques aller vers la baisse.
Il a été noté une certaine réticence qui remonte, notamment en rapport avec les enterrements sécurisés. Comment gérez-vous cela?
Jusqu'au mois de janvier, les cas étaient en diminution. La résistance, nous ne la connaissions pas. Je sais que la résistance en ce qui concerne les aides ou les enterrements dignes et sécurisés, c'est juste un cas qui a été enregistré dans un des quartiers en ville de Beni. Nous sommes en train de nous débattre pour que cette résistance, nous arrivions à la briser et qu'elle ne contamine pas le reste des quartiers. Voilà pourquoi que je vous ai dit que avec ce que nous avons enregistré la semaine passée, nous essayons essayons de reconscientiser nos populations pour que nous puissions revenir dans les sentiments ou dans les situations qui nous caractérisaient avant, de sorte qu'on n'enregistre plus les cas de résistance vis-à-vis des équipes de la riposte. Et parmi ces équipes de la riposte, il faut aussi compter les équipes des entraînements dignes et sécurisés.
Pourquoi surtout il y a ces regains d'attaque?
Les cas des attaques des équipes de la riposte par les Maïmaï sont enregistrés en ville de Boutembo. La ville de Boutembo est distante de la ville de Beni de plus ou moins 54 km. Ces cas, nous ne les enregistrons pas au niveau de la ville de Beni. Et plutôt, ce sont les cas malheureux qui sont partis de Boutembo, qui font que Beni, qui est situé au croisement des routes nationales numéro 2 et des routes nationales numéro 44, qui fait qu'au niveau de Beni, il y a les gains de la maladie à virus Ebola.
Bwana Kwawa Nyoni, le maire de la ville de Beni, dans le Nord Kivu.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Maroc maintenant, pour parler du Jardin Rouge, lancé par la Fondation Montresseau en 2009. Ce lieu permet à des artistes du monde entier de venir travailler pendant plusieurs mois dans des conditions optimales. Un domaine de 13 hectares aménagé en lieu de travail et de calme où les artistes disposent d'ateliers et de matériel pour créer en toute liberté. La Fondation a pour but de les accompagner dans leur processus de création et de leur permettre de profiter d'un réseau très large. C'est un reportage de Sabrina Hakim.
C'est à 20 km de la ville de Marrakech que se situe le Jardin Rouge. Le site de 13 hectares accueille tout au long de l'année des artistes venus du monde entier en résidence. Créée en 2009, la Fondation Montresseau a pour objectif d'accompagner des artistes dans leur processus de création. Parmi eux, Maya Touam, artiste photographe franco-algérienne.
Ce qui est assez innovant à Jardin Rouge, c'est qu'ils ont une capacité d'héberger beaucoup d'artistes. Donc il y a un brassage générationnel qui est énorme et donc ça permet des échanges entre artistes confirmés et nouvelles générations, tant au plan humain qu'au plan professionnel, etc. Donc ça c'est déjà super. Je l'ai rarement vu dans d'autres résidences.
Dans un autre atelier dédié à la sculpture, nous retrouvons Nathanaël Vaudoué, qui déplore le manque d'investissement des États africains dans l'art.
Nous remarquons qu'en Afrique, ce sont des initiatives privées. Et c'est ça, c'est ce que nous déplorons souvent. Nous aimerons bien que nos gouvernements prennent aussi en charge certaines choses pour accompagner les artistes dans leur démarche. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a de plus en plus d'événements, et ce grâce aux talentueux artistes qui font de très grands efforts et qui travaillent davantage pour que notre continent soit représentatif.
Le Jardin Rouge, c'est aussi un lieu d'exposition où les artistes présentent leurs travaux en fin de résidence. Ainsi, ils peuvent montrer et vendre leurs travaux. La Fondation compte aujourd'hui 200 œuvres dans sa collection.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.